vagues s'écrasent sur les roches. Foche, passe à la moche, vie de cloche, poche, vie de baisse fastoche. Mais la poisse s'accroche à face de mes textes. Je viens du bled, plein de verbes dans les bagages. Ça, je tiens ma rage dans ma gorge. La plage déserte me pousse au cafard. Je traîne dans les bars, tard le soir où les soulards se filent au rasoir. Splice noir dans le sandard, je sombre dans le mégot tripé. Égoïste, jette mes tripes dans la musique. Mars, ma ville, un plateau où le désert avance un gâteau. Partagé à 10 méros, pendu à un lasso. Nourri au gaz de ville, à la lumière orange. Comme elle, je dérange étranger aux pensées étranges.
De tagine, de pruneau, de mafia, sa poisson fait pas de carbo, les épices me collent à la peau. Assise là, les pieds dans l'eau, soleil du préau. Ma ville s'éveille chaque matin quand les fourmis s'en vont au boulot. Fragile, un porte-à-faux, situation bancale, normale, tout le monde se barre. L'économie chaotique comme une ville mécane pluriethnique. Cohabitation naturelle, les cultures, les mœurs, les couleurs dansent comme dans une aquarelle. Seul du serval dévoile la face B de la carte postale. La tonne cache des nuages, un cercueil passe, mauvais présage. L'ennui vainqueur, sur peur devant les seringues de l'horreur. Le noir château en fait sans un mot, Mars inspire heureux.
خلوا البحر يبني ولا زعافها مروح بالمهار زايد الليلي مروح بالمهار زايد الليلي هي خلوا البحر يبني يا ولا زعافها مروح بالمهار زايد الليلي مروح بالمهار زايد الليلي هي
Yeah. on nous dit « Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. » Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là, faut...
ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents.
Salut, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi. Alors on est un peu en retard, mais en même temps ça nous a permis de couper une chanson de Bertrand Cantat, Ce tueur de femmes.
Oui, d'ailleurs on se demande ce qu'elle faisait sur Radio
Canu. Sur cette plus rebelle des radios.
Et aujourd'hui, le programme du Canu Info du lundi, on commencera tout d'abord à l'international par la suite des aventures de Carola Racketeux, la capitaine du navire du Sea-Watch, qui a été libérée par la justice italienne et qui va porter plainte contre Salvini. On parlera ensuite de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, puis d'une loi en Guinée qui permet désormais aux militaires de tirer à vue. On enchaînera au national avec un nouvel malheureux épisode de violence policière. Un homme de 50 ans a été tué par la police à Chambéry. Puis, on parlera de la rétention des notes du bac et des APL, les allocations pour le logement, qui vont à nouveau être attaquées très bientôt. Et enfin, on parlera de la réforme de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Au local, on enchaînera avec la visite d'Emmanuel Macron. C'est où quand David Kimmelfeld disparaît d'une photo tweetée par Gérard Collomb.
Attention.
Puis on continuera à vous tenir au courant de l'actualité du procès du collège Maurice Sève. Et on finira par vous parler d'une mobilisation contre un projet de construction d'immeubles de luxe sur les pentes de la Croix-Rousse.
Et donc on commence par l'international avec donc la continuité de cette affaire de Carola Racketeux.
Oui, donc Carola Racketeux avait été arrêtée directement après être arrivée sur les terres italiennes, après avoir forcé l'entrée dans les eaux territoriales parce que, bah, en fait, elle n'avait pas le choix, quoi. Personne ne voulait que son bateau débarque nulle part. On en avait parlé la semaine dernière. Donc le Sea-Watch sur lequel se trouvait une quarantaine de personnes qui avaient été repêchées dans la Méditerranée et qu'elle refusait de ramener notamment en Libye parce qu'elles auraient pu être vendues en esclavage, maltraitées, tuées ou torturées, comme on sait que ça arrive dans ce pays. Ouais. Et donc à son arrivée, elle avait été arrêtée immédiatement par la police, mais une juge italienne a invalidé mardi dernier son arrestation, c'est-à-dire qu'elle a été libérée. Elle avait été arrêtée donc officiellement pour résistance avec violence envers un navire de guerre, c'est-à-dire pour avoir obligé une vedette de police italienne à s'éloigner sous peine d'être écrasée contre le quai. et pour obstruction à la force publique parce qu'elle avait pénétré de force dans les eaux italiennes. Et finalement, pour une fois, la justice a suivi l'argumentation de la défense de Carola Rackete sur presque tous les points. Donc la juge italienne a invalidé le premier chef d'accusation, donc résistance avec violence envers un navire de guerre, en estimant que la vedette de police ne pouvait pas être considérée comme un navire de guerre. Et elle a aussi invalidé le second chef d'accusation d'obstruction à la force publique, en faisant valoir que Carola Rackete avait agi pour sauver des vies. Waouh ! La justice a pris en compte un motif supérieur au reste, supérieur à la gestion des frontières. Et de plus, selon la décision, la juge a estimé que l'interdiction de pénétrer dans les eaux territoriales italiennes qui avait été imposée par Matteo Salvini sur la base d'un décret adopté quelques jours avant n'était pas applicable aux actions de sauvetage. Donc, l'interdiction de pénétrer dans les eaux territoriales italiennes ne serait applicable qu'aux passeurs, et elle sous-entend par là qu'elle ne qualifie pas le Sea-Watch et son équipage de passeurs. Donc, elle a bien dit que Carola Rackete était obligée de débarquer les migrants à Lampedusa, dans la mesure où les droits des migrants n'étaient pas garantis dans les autres ports proches, notamment en Tunisie et surtout en Libye. Donc, c'est quand même une décision judiciaire assez satisfaisante. Mais Carola Rackete n'est pas complètement sortie d'affaire, puisqu'elle est convoquée le 9 juillet pour deux autres chefs d'accusation, notamment une enquête pour aide à l'immigration clandestine. Donc une enquête qui est systématiquement faite maintenant sur les personnels qui travaillent dans les navires de sauvetage. En tout cas, l'ONG Sea-Watch s'est dit déterminée à poursuivre ses opérations de sauvetage en Méditerranée, si nécessaire, avec un nouveau navire si le Sea-Watch 3 reste sous séquestre, puisque pour l'instant il est retenu par les autorités italiennes. Et qui plus est, Carola Rackete a décidé de porter plainte pour diffamation contre Matteo Salvini, qui ne s'est pas privé de l'insulter.
C'est pas son genre pourtant.
Pendant plusieurs jours, donc il l'a qualifiée d'emmerdeuse, de criminelle, de pauvre femme qui a seulement essayé de tuer 5 militaires italiens. Donc les avocats de Carola Rackete ont décidé de porter plainte contre Matteo Salvini pour diffamation. Et on espère que, bien sûr, Matteo Salvini va être condamné et que Carola Rackete sera libérée de toutes les enquêtes qui la concernent pour l'instant.
Bien, on enchaîne donc avec cet accord entre l'Union européenne et le Mercosur, qui a été récemment donc acté. Donc c'était le 28 juin. Il a fallu 20 ans de négociations pour aboutir à cet accord qui est, selon l'intégralité des dirigeants qui ont signé cet accord, une réussite et surtout un accord historique. Alors, les dirigeants européens et pour les Sud-Américains, on a le Brésil avec Jair Bolsonaro en tête de file, hein, et l'Argentine avec Mauricio Macri, qui est un multimilliardaire réactionnaire, hein, on en a déjà parlé la semaine dernière, et puis il y a aussi l'Uruguay et le Paraguay. Alors cet accord, c'est en fait un traité de libre-échange qui est amené à devenir le plus important du monde, puisqu'il pourrait concerner jusqu'à 770 millions de personnes et un quart du PIB mondial. C'est considérable. Il éliminera à terme 91% des droits de douane imposés par le Mercosur sur les produits européens. À l'inverse, 92% des taxes seront supprimées par l'Union européenne sur les biens sud-américains. Alors d'un côté, les portes sont ouvertes pour les produits européens vers l'Amérique du Sud, donc principalement pour l'industrie européenne, avec en numéro 1 les voitures, et dans les petits papiers, on a la chimie, les produits pharmaceutiques, les marchés publics et également l'industrie du luxe. De l'autre côté, l'UE ouvre son marché européen, principalement en ce qui concerne le secteur agricole par le biais de quotas. Alors on a 99 000 tonnes de bœuf par an supplémentaires autorisées, un quota supplémentaire de 180 000 tonnes pour le sucre et 100 000 tonnes pour la volaille, pour les volailles, les différents types de volailles, entre autres choses. Alors, d'une part, pourquoi est-ce que cet accord est très vivement critiquée par les écologistes, mais pas uniquement. Les éleveurs français et européens, qui sont déjà très largement fragilisés par la guerre des prix de la distribution, eh bien, à coup sûr, ne parviendront pas à concurrencer à terme les prix, en termes de prix, les usines à viande latino-américaines. D'autant que du côté latino-américain, en particulier au Brésil, les bœufs sont nourris à base d'antibiotiques utilisés comme hormones de croissance et avec des céréales, et principalement du soja transgénique, hein, issus de monocultures, où sont utilisés des centaines et des centaines de pesticides interdits en Europe à cause de leurs conséquences sur la terre, sur les animaux, mais aussi, et bien sûr, sur l'homme. Récemment, d'ailleurs, Bolsonaro a autorisé 239 pesticides supplémentaires, hein, depuis janvier, 239 pesticides supplémentaires. La déforestation nécessaire à l'augmentation des monocultures et de l'élevage intensif a augmenté de 88% en un an. Ou on pourrait aussi citer 4565 km² supplémentaires disparus ces 11 derniers mois, ou encore, pour imager un petit peu la chose, un terrain et demi de football toutes les minutes qui disparaît depuis environ un an. Avec cet accord qui va considérablement gonfler les besoins en espace pour les monocultures et l'élevage intensif, ces chiffres ne sont que les prémices de ce qui attend la forêt amazonienne ces prochaines années. Pour finir, cet accord va renforcer les attaques de Bolsonaro contre les communautés dites indigènes, celles et ceux qui vivent en grande partie dans la forêt amazonienne. Déjà, la démarcation des terres indigènes a été placée récemment sous la juridiction du ministère de l'Agriculture, permettant ainsi aux très puissantes entreprises agroalimentaires du bétail et du soja d'accélérer leur progression au cœur de l'Amazonie, qui est la plus grande forêt du monde, et du Cerrado, qui est la savane la plus riche en biodiversité au monde. Depuis février, 14 territoires indigènes protégés ont été attaqués, et de trop nombreux dirigeants communautaires, de dirigeants paysans, de simples paysans ou de simples activistes ont été assassinés, probablement par les services de Bolsonaro ou les services des milices payés par les entreprises de l'agroalimentaire, du bétail et du soja. Alors, petit bilan de cet accord, les agriculteurs et les producteurs français comme européens, et principalement les plus petits, comme d'habitude, vont être forcés à mettre la clé sous la porte. Des quantités astronomiques de bouffe blindées de pesticides, d'OGM et d'hormones de croissance vont arriver dans nos assiettes, potentiellement, en tout cas dans nos magasins. La déforestation va s'accélérer de manière considérable et les communautaires indigènes vont être toujours plus attaqués. Donc, cet accord, non, ce n'est pas un bon accord. Et malheureusement, il est passé crème. Comme on dit, il y a eu une petite levée de bouclier, mais très très faible. Et c'est fort dommage.
Et maintenant, on va aller faire un tour en Guinée pour constater qu'une nouvelle loi vient d'apparaître qui permet en fait aux militaires de tirer à vue sur la population.
Bien évidemment, une loi vient d'être adoptée en ce sens par les parlementaires guinéens. En Guinée, les gendarmes peuvent désormais tirer à vue sur tout obstacle et toute menace imminente. C'est la quintessence d'une loi adoptée par l'Assemblée nationale. La Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale déclare que cette loi vise à protéger les Guinéens contre le terrorisme, les prises d'otages et tous les cas dans lesquels un d'entre eux se retrouve face à un danger. Dans ce cas, la loi autorise les gendarmes guinéens à tirer à vue. Aucune poursuite judiciaire. Mais je me dis, où sont passés les gendarmes et les policiers qui ont tué plus de 100 Guinéens lors des manifestations? Aucune justice rendue. Et maintenant que la loi autorise ces tirs à vue, je pense qu'ils vont transformer le pays en bain de sang et appliquer la loi de la jungle. Car les organisations de défense des droits de l'homme redoutent que les gendarmes ne se servent de cette loi pour tuer impunément dans les contextes actuels, marqués par la polémique autour d'une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat du chef de l'État guinéen, M. Alpha Condé. Je me demande vraiment où va la Guinée, car ça m'inquiète.
Alors, et là, donc, on va faire une petite pause musicale avant de passer au national, et on va écouter une chanson de Bruce Springsteen sur la police et les violences policières qui s'appelle « American Skin ».
Take that ride across this bloody road.
Le Canu Info du lundi.
Peut-être sur Nostalgie.
Nostalgie. Alors ce choix, nous, on était là, on en discutait, on n'était pas tous d'accord. Peut-être que vous non plus. On est content que vous n'ayez pas zappé de radio.
N'hésitez pas à nous envoyer des mails pour dire si la sélection musicale d'aujourd'hui vous a plu, parce que ça nous ferait des arguments face à notre, la personne qui a choisi cette chanson, quoi.
En attendant, c'était on va parler de cette chanson qui a été quand même écrite par Bruce Springsteen, que suite au meurtre en fait de la d'un jeune homme qui s'appelait Amadou Diallo, qui a été tué par la police aux États-Unis en 99 et qui a été descendu de plus de 41 balles alors qu'il n'était pas armé.
Ok, il essaye de nous faire passer pour des méchants.
Voilà, c'est juste que vous ne parlez pas anglais, vous avez bien compris à la chanson.
Mais la chanson est un peu lente quand même.
Le contexte est intéressant, certes, mais tu aurais pu juste parler du contexte. Bon, bref, peu importe. Alors, puisqu'on parle de violence policière, mais quelle transition, c'est incroyable. On va aller parler d'une violence policière récente.
Et locale.
Et locale, puisqu'elle s'est passée à Chambéry. Alors le contexte, hein, on est à Chambéry, un appartement insalubre, une famille pauvre et précaire. Lagdar B, 50 ans, rentre chez lui et il y a un huissier de justice et les forces de l'ordre qui veulent l'expulser de son habitation. Conséquence de cette expulsion, eh bien, il proteste et il décide de balancer des affaires par la fenêtre, balancer des affaires de la famille par la fenêtre, il y a un bris de vitre. Un des policiers présents le plaque et le menotte. Il se débat, puis il annonce qu'il ne se sent pas bien. Les flics ont pourtant décidé de le traîner dans l'immeuble, puis dans la rue, pour l'embarquer et le mettre dans une voiture de police. C'est là où, officiellement, selon la police, il fait son premier malaise. Les flics le sortent alors de la voiture. Sa tête cogne le sol. Des vidéos sur Internet le prouvent. Les flics font, malgré tout, un massage cardiaque. Il revient à lui, puis deuxième malaise. Et là, ce deuxième malaise est mortel. Alors, ce que disent les voisins, c'est que quand les policiers l'ont traîné, eh bien, a priori, il était déjà inconscient, qu'ils l'ont traîné comme un chien, je cite des témoignages de voisins, alors qu'il était malade, qu'il avait un pacemaker, et qu'un certain nombre de voisins qui voyaient la scène étaient en train de le dire aux policiers, qui ont malgré tout décidé de continuer à le traîner, de le maltraiter, et de l'emmener jusqu'à la voiture de police dans cet état-là. Donc, on peut considérer que c'est un nouveau meurtre policier, et que c'est la conséquence d'une double réalité. D'une part, la gestion de l'immobilier et ses mécanismes qui sont inhérents au système capitaliste, dont le but est l'unique profit. Pour faire monter la valeur de l'immobilier, il faut que la demande soit supérieure à l'offre. C'est ce qu'on appelle la spéculation immobilière. Dans toutes les villes de France, les logements et des logements et de très nombreux bureaux sont vides et de plus en plus nombreux. Bien souvent, ils sont détenus par des sociétés d'assurance, des bailleurs sociaux, des municipalités, des métropoles ou des départements qui spéculent sur les prix de l'immobilier. Il y a aujourd'hui en France plus de logements vides que de gens à la rue. Et sur 3 saisons sur 4, printemps, été, automne, eh bien, c'est l'époque des expulsions locatives pour les pauvres et les précaires, comme cette famille de Chambéry. Ajouter à cette situation dramatique l'impunité policière, toujours plus importante, hein, on l'a vu ces derniers temps avec le nombre de blessés par la police, voire de morts comme à Nantes, eh bien, vous avez la mort de cet homme de 50 ans. Donc, conclusion, mort à la spéculation immobilière, mort aux flics et mort au capitalisme.
On enchaîne avec les notes du bac.
Alors, réforme de l'éducation nationale oblige, et donc grève, et ben, il y avait eu le bac et il y a eu tout un mouvement en fait, de la part d'un certain nombre de professeurs de retenir les notes, en fait, de simplement pas donner les transmettre après avoir corrigé les copies, les notes au rectorat, pour justement continuer à manifester contre cette réforme qui a pour but affiché une disparition progressive de l'éducation nationale vers une privatisation de l'éducation en France. Ce qu'on a pu voir, c'est très rapidement, c'est un lynchage médiatique en fait et un discours uniforme de la part de l'ensemble des médias anti-prof grévistes qui a été quand même assez hallucinant. On les a traités de preneurs d'otages, enfin tout un de terroristes, enfin il y a eu tout un champ lexical assez délirant qui a pu être employé contre eux, alors que en fait dans les faits, ici, ce sont des militants qui luttaient contre cette destruction totale en fait de l'égalité en fait de l'ensemble des élèves devant l'éducation et que pour éviter justement un système totalement discriminatoire et qui au final a été utilisé pour casser cette grève, notamment par le ministre qui a poussé en fait les différents jurys à utiliser les moyennes des élèves qui dans les matières concernées. Donc ils ont pris les notes qu'ils avaient eues tout au long de l'année, le contrôle continu, et qui est pour remplacer les notes de l'examen qui étaient donc retenues par ces différents professeurs. Ce qui nous amène en fait de fait ce qui était dénoncé, commence en fait les prémices d'une discrimination totale en fait entre certains élèves qui qui ont pu profiter de cette réforme et d'autres non, avec des logiques comptables, avec des logiques d'enseignement derrière, et qui donc avec des bacs à différents niveaux et donc à géométrie variable. Et en fait, on finit par avoir une réforme qui était prévue dans quelques années, qui nous arrive dès maintenant, et on en voit dès maintenant les effets totalement néfastes. Et parce que certains élèves sont jugés sur pas du tout de la même façon que les autres, et donc ce qui remet en cause en fait toute la logique de l'éducation nationale.
Oui, ce qu'on pourrait quand même signifier et spécifier, c'est que l'État a le droit de se permettre, encore plus que le patronat dans le secteur privé, de casser les grèves par tous les moyens possibles et imaginables. Non seulement il a remplacé les grévistes qui devaient surveiller les examens du bac, mais en plus là, il prend des décisions pour détourner la notation qui était en vigueur jusque-là du bac, c'est-à-dire une notation à 100% sur le contrôle terminal. La réforme veut mettre en place une notation du bac localisée à 40%, mais c'est à partir de l'année prochaine. Et là, il a décidé d'avancer pour briser la grève, pour briser la rétention de notes, a décidé donc de contourner ça. Et pour le moment, légalement, même si un certain nombre de syndicats vont essayer de faire des recours, pour le moment, légalement, ça passe tranquillement. Donc, non seulement l'État est le plus mauvais employeur de France en termes de précarisation du salariat, mais c'est aussi le plus gros briseur de grève, visiblement.
Et oui, et c'est alors si est-ce que pardon, est-ce qu'il y a un truc
pas grave, hein, tu vois, traitement, ça arrive.
Non, est-ce qu'il y a un truc qui est possible de faire, c'est de contester justement cette inégalité devant les examens pour les élèves, en fait devant le tribunal administratif. Donc on appelle en fait tous les parents d'élèves qui ont envie qui considèrent que c'est totalement délirant ce genre de pratique, n'hésitez pas à aller faire un tour et engorger les différents tribunaux administratifs de France et de Navarre pour dénoncer en fait c'est les aberrations de ces nouvelles réformes.
On enchaîne ensuite donc avec la réforme de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, mais un petit cours d'histoire ne ferait pas de mal.
Oui, on va pas aller jusque-là quand même, mais...
C'est parti pour 130 ans de cours de loi.
La pression. Non, mais par contre, même si les médias souvent ne sont pas trop de notre côté et font peu de recherches d'informations et présente d'emblée les grévistes comme des preneurs d'otages, etc., etc. Je voulais quand même parler de cette tribune publiée dans Libération, écrite par plusieurs syndicats et sociétés de journalistes, collectifs et associations, qui alerte sur un projet de réforme de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Donc, en fait, ce projet a été annoncé par la ministre de la Justice et confirmé par le ministre de la Culture. Et il s'agit de faire sortir l'injure et la diffamation de la loi du 29 juillet 1980 sur la liberté de la presse pour faire rentrer ces délits de presse dans le droit pénal commun. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour l'instant, notamment la diffamation, les délits de presse comme la diffamation et l'injure étaient jugés essentiellement par des sections spécialisées comme la 17e chambre à Paris, qui est considérée comme la chambre de la presse. Et donc, il y avait un délai de prescription de 3 mois, donc ce qui est assez court, et une procédure très stricte qui était volontairement protectrice pour les journalistes, pour pas qu'ils puissent se faire accuser comme ça assez facilement de diffamation. Et avec cette réforme, donc la diffamation et l'injure deviendraient finalement des délits pénaux classiques. Et seraient jugés comme des délits pénaux de droit commun, en fait. Et donc, pour les journalistes qui publient cette tribune, c'est vraiment une nouvelle atteinte assez importante à la liberté de la presse, puisque avant, donc, ces sections spécialisées et cette chambre de la presse permettaient aux journalistes de faire valoir leur bonne foi, de démontrer le sérieux de leur enquête pour montrer que non, il n'y avait pas diffamation. Et que là, en gros, les journalistes risquent de passer en comparution immédiate pour des délits de diffamation. C'est à ça que ça mènerait. Ils rappellent d'ailleurs dans leur tribune que ce projet de réforme fait suite à tout un tas d'attaques, notamment les récentes déclarations du secrétaire d'État au numérique, même si il est revenu en arrière depuis, mais sur la création d'un conseil de l'ordre des journalistes. Une dérive répressive qui remonte à 2015 et à la loi renseignement qui était déjà attentatoire à la protection des sources des journalistes. Et puis, tous les événements récents qu'on connaît bien, notamment depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les violences exercées contre les reporters de terrain, les journalistes bousculés, matraqués, gazés, blessés par des tirs de LBD ou des éclats de grenades de désencerclement alors qu'ils essayent juste de montrer comment se passent les manifestations et surtout quelle est la réalité de la répression de ces manifestations. Et puis aussi la tentative de perquisition des locaux de Mediapart et les auditions de 8 journalistes par les services de la DGSI dans le cadre des Yemen Papers et de l'affaire Benalla, qui ont montré que la protection des sources des journalistes était vraiment mise en danger. Donc, ils appellent avec cette tribune les parlementaires à ne pas aller encore plus loin dans la remise, l'atteinte à la liberté de la presse.
Juste, la DGSI, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, hein, c'est l'équivalent des renseignements généraux, hein, donc, qui ont fusionné il y a quelques années sous Sarkozy avec la Direction de Sûreté du Territoire. Voilà, donc c'est ceux qui nous fichent. On enchaîne donc avec au National. Oui, vas-y.
Au National, non, bah vas-y, continue National.
Ouais, ouais. Au National, un dernier point donc, qui est sorti dans le Canard Enchaîné donc mercredi dernier. Une nouvelle attaque sur les APL. Donc, ce sont les aides pour le logement. Alors, vous vous rappelez probablement, et vous l'avez forcément vu sur votre compte en banque, les APL avaient été réduites de 5 euros en 2017. Il y avait eu une polémique autour de cette diminution des APL. Pourquoi attaquer les APL alors que de l'autre côté, on diminue l'ISF? On savait déjà que Macron était le président des riches. Ça nous en donnait un exemple supplémentaire. Mais là, le gouvernement va plus loin. Alors, il avait prévu de faire 1,2 milliard d'économies d'ici à la fin de 2019 sur les APL. Bon, on ne le savait pas, c'était dans les petits papiers, mais il a décidé d'accélérer le tempo. En gros, Bercy, donc, qui est le ministère de l'économie et du budget, entend désormais appliquer dès le mois d'août le calcul entraînant la baisse de l'APL qui sera versée le 5 septembre, sachant qu'en septembre, c'est quand même problématique quand on sait qu'il y a beaucoup de frais à payer, que ce soit pour les étudiants, par exemple, ou les parents qui ont des enfants scolarisés. Alors, quelle est la nouvelle logique de ce calcul ? Elle consiste à prendre en compte les revenus des 12 derniers mois au lieu de l'année N-2, ce qui consisterait donc à faire perdre à 1,2 million d'allocataires sur 6,5 millions d'allocataires pour une moyenne de 1 000 euros par an, donc d'APL, 1 000 euros par an en moyenne pour à peu près un allocataire sur 5, en fonction donc de ce nouveau calcul, je répète, prendre en compte les revenus des 12 derniers mois au lieu de l'année N-2. Je le répète pour que vous pensiez à vos salaires des années précédentes et surtout des 12 derniers mois pour savoir si ça va vous impacter. Non seulement il y a cette baisse considérable, hein, des APL qui va toucher énormément de personnes, sachant que les APL, eh bien, ce sont pour les personnes qui sont précaires. En parallèle, l'électricité va être augmentée, EDF va augmenter. Alors, il y a déjà eu le 1er juin une petite augmentation de 5,9% sur toutes nos factures, hein, tous les consommateurs d'électricité, qui a été mise en place par la Commission de régulation de l'énergie. Et il y a un second relèvement qui a été programmé pour le 1er août de 1,2%. Donc si je calcule bien, on serait donc à 7,1% d'augmentation d'EDF en 2 mois. Qui vont être ponctionnés sur nos salaires une fois de plus. Donc baisse des APL, augmentation de l'EDF, on est bien, on espère que septembre sera explosif.
Et oui, on l'espère aussi. Et en attendant, avant de passer au local, on va vous passer une petite chanson. C'est quoi le titre déjà ?
Le ticket, le monde est chaud.
Et ben voilà, c'est parti.
Featuring Soprano.
Calcul politique, je sais leur arrogance et leur vision cynique.
changement climatique, il ment avec aisance. C'est Pinocchio pathétique. Bout de souffle, je vois les fleurs faner, l'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre, se foutre de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête, c'est leur paradis fiscal.
Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi et sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et on enchaîne donc ce Canu Info avec un point au local sur la guéguerre intestine violente entre Kimmelfeld et Gérard Collomb. Mais que s'est-il passé sur cette fameuse photo ?
Ce qui s'est passé sur cette fameuse photo nous rappelle les sombres temps de notre histoire, où, notamment dans une magnifique période stalinienne, où on avait à chaque fois qu'un ancien chef mourait, on le faisait disparaître de toutes les photos pour effacer toutes les traces de lui. Ben, en fait, Gérard Collomb, de façon très mauvaise, mais a essayé de reproduire ce genre de pratique en supprimant, en recadrant en fait une des photos qu'il avait et qu'il a mis sur son propre compte Twitter. Et qui faisait disparaître son adversaire politique. Donc c'est quand même assez magique de voir en fait, David Kimmelfeld en fait, qui posait à côté de Macron, avait simplement disparu d'une photo et comme s'il n'était pas là. Donc ça reste une gaminerie qui est assez drôle et qui peut paraître un peu drôle et aussi extrêmement pathétique, mais c'est surtout un des nombreux premiers signes du lancement de la campagne électorale de 2020 et qui s'annonce extrêmement sanglante entre ces deux individus, et on espère surtout que ça ne sera pas les habitants de Lyon qui feront les frais, et de l'agglomération feront les frais de cette guerre entre les personnes, parce qu'ils ont déjà commencé en fait mutuellement à bloquer les projets de l'un et de l'autre, et il y a quand même quelques projets qui ne sont pas si pourris que ça, et ça s'annonce donc un gel de toute avancée, de tous travaux pendant un certain temps. Donc affaire à suivre, et on espère qui vont continuer à nous faire bien rire à ce genre de vieille gaminerie, et qu'en attendant, ça ne va pas absolument tout paralyser.
On rappelle que David Kimmelfeld et Gérard Collomb donc, sont candidats tous les deux pour la métropole, pour le moment, et la mairie, et surtout la métropole de Lyon pour 2020. Et on enchaîne donc avec la mobilisation contre un projet de construction d'immeubles de luxe dans les pentes de la Croix-Rousse.
Oui, on voulait parler de cette mobilisation contre un projet qui s'appelle Entrevue, de Bouygues. Donc il s'agit en fait de construire 4 immeubles de standing avec 40 places de parking privé rue Lémo. Et Bouygues Construction a obtenu de la mairie centrale un permis de construire pour s'implanter dans ce quartier. Donc évidemment, les habitants et habitantes du quartier n'ont pas été consultés ni même informés avant que le permis de construire soit affiché. Et ils craignent bien sûr que cela renforce la gentrification qui est déjà bien à l'œuvre sur les pentes de la Croix-Rousse et que ça donc aggrave la densité urbaine, que ça renforce le phénomène des îlots de chaleur puisque le béton pour faire redescendre les 40 degrés pendant la canicule, ça ne marche pas très bien, que ça fasse augmenter les prix sur le quartier et que ça entraîne une impossibilité à moyen terme de rester habiter dans le quartier pour les habitants, puisque le phénomène de gentrification bien connu, c'est que plus les prix augmentent, plus les prix augmentent. Et c'est simple, non?
Oui, c'est simple.
Ce projet s'inscrit dans l'objectif plus général de la mairie centrale d'attirer de nouveaux habitants bien riches dans les pentes et de brader au privé tout ce qui peut l'être, puisqu'il y a eu plusieurs bâtiments et monuments qui ont fait l'objet de projets de vente à des sociétés privées ces derniers temps, notamment l'école des Beaux-Arts, l'église Saint-Bernard, la friche Rubon Pasteur. Et donc il y a plusieurs habitants des rues Lémo, Pouteau, Diderot et de la place Colbert qui se forment en collectif et qui, entre autres, utilisent la voie judiciaire en faisant appel à des avocats pour déposer des recours contre le permis de construire déposé par Bouygues, mais aussi se mobilisent avec des rassemblements, etc. Donc je vous invite à aller voir leur page Facebook, Les Pentes contre Bouygues, ou oui, ça.
Ou tout court, c'était ça.
Et on enchaîne pour finir au local, enfin pour finir pas tout à fait d'ailleurs, avec la continuité donc du procès du collège Maurice-Ève, squat.
Ça squat, mais en fait ce qui est intéressant c'est de le relier au sujet précédent, parce qu'en fait cet ancien collège Maurice-Ève, donc qui a désaffecté depuis quand même pas mal d'années et qui squattait maintenant depuis plus d'un an par des centaines de camarades édilés et surtout aussi non, un grand nombre d'entre eux qui sont mineurs, et a été menacé par un référé qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant. Un référé, c'est une procédure en urgence en fait pour parce que la justice a des délais extrêmement longs et que pour les affaires de droit commun, et que quand il y a ou en tout cas la personne qui tente le procès pense qu'il y a une urgence absolue et qu'elle est capable de justifier cet état d'urgence, et ben elle peut faire appel à une mesure de référé pour faire accélérer la procédure.
Et donc qui appartient ce squat? Qui fait ce référé?
Alors, à l'heure actuelle, ce squat appartient à la métropole.
Tiens donc,
pour ne pas changer. Et métropole qui est censée loger en fait tous ces mineurs, selon la loi, les mineurs étrangers, avant qu'ils soient reconnus ou non mineurs, et après qu'ils le soient surtout reconnus, et ben elle est censée en fait, à travers les services de l'enfance s'en occuper, parce que c'est une délégation qu'elle a récupérée depuis leur remise en place. Sauf que voilà, et ben donc elle a, de façon plus ou moins pathétique et honteuse, elle avait investi quelques centaines d'euros en mettant quelques douches et puis un peu d'eau et puis en remettant l'électricité que dans certains bâtiments, et là selon eux ils ont fait leur travail, ils ont évacué la grande majorité des mineurs, il ne resterait plus que des squatteurs qui on ne sait pas trop quoi, mais pour eux on s'en fout. Et donc ils font cette procédure en référé. Mais pourquoi faire une procédure en référé? Quelle urgence il y a? Et bien l'urgence, c'est comme la camarade juste avant l'a rappelé, c'est que la Croix-Rousse est en train de subir beaucoup d'attaques en fait de la part des
gentrifieurs, mais la guillotière aussi.
Oui, la guillotière aussi, ça arrive, mais on en parlera. Mais là, ce soir, c'est encore la Croix-Rousse, c'est parce que en fait, derrière, il y a quoi pour après la destruction de ce collège? Et ben en fait, on a cette fois Vinci qui eux aussi veulent construire de l'immobilier de luxe ou en tout cas de qualité sur ces emplacements et qui a besoin pour pouvoir démarrer ses travaux, et en fait que le squat soit vidé avant de pouvoir tout détruire et reconstruire. Donc le plan de la métropole, c'est de virer plusieurs centaines de personnes pour en loger à peine quelques dizaines, tout en, en étant une fois de plus en opposition totale avec la loi et en mettant à la rue, quand même, en plein été et sans aucune protection, des centaines d'enfants, en fait, et qui vont pouvoir dormir dehors grâce aux bons soins de la métropole. Donc là, les premiers avocats ont obtenu un délai, en fait, du procès qui aura la prochaine étape, aura lieu le 24 juillet, si je ne me trompe pas. Mais d'ici là, vous verrez apparaître sur votre site d'information préféré des informations et sans nul doute un appel à rassemblement. En attendant, n'hésitez pas à passer, à apporter votre soutien, à apporter des dons, parce que bah, en fait, la vie continue et on espère qu'elle continuera encore longtemps.
D'ailleurs, puisqu'on parle de squat et que vous nous écoutez de manière très assidue tous les lundis, vous avez forcément entendu parler la semaine dernière de l'ouverture d'un nouveau bâtiment, un immeuble entier vide qui appartient visiblement lui aussi à la métropole, pour donc reloger les personnes des squats, du squat Nelson Mandela, donc à Villeurbanne, secteur QC à côté de l'Amphizède, hein, qui va être expulsé dans les jours qui viennent. Eh bien, ce bâtiment aux 40 quais Arloin a été ouvert. Il y a une procédure en cours et pour le moment, tout se passe relativement correctement, mais il y a des besoins. Il y a des besoins pour ce lieu et il y a une liste de besoins que vous pourrez évidemment retrouver sur votre site préféré Rébellion, mais que nous allons vous donner aussi à l'instant même.
Alors, le besoin prioritaire, le temps de jour, le fichier, le besoin prioritaire, c'est notamment en fait, de trouver des matelas. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, bah, les gens qui y sont n'ont rien pour se loger. On a besoin de matériel, en fait, comme d'habitude, de matériel de nettoyage pour nettoyer. Parce que même si ce squat est de loin des plus beaux que j'ai pu voir en fait, de mon histoire à Lyon, et bah, il y a quand même de la poussière qui s'est accumulée. Et puis, les gens ont besoin au quotidien de pouvoir nettoyer du matériel basique de plomberie et d'électricité pour pouvoir remettre en état continuer à rallumer les différentes pièces qui ne le sont pas encore. Et vous trouverez, il y a toujours les besoins habituels, notamment en nourriture, en mobilier, et voilà. Vous trouverez en ligne sur Rébellion et dans différents endroits une cagnotte en ligne qui vous permettra aussi de donner de l'argent si vous n'avez pas d'objet, pas le temps ou l'envie de vous déplacer, mais vous pouvez fortement aider aussi par là, parce qu'il y a des gros besoins financiers pour acheter du matériel commun, continuer à acheter des bouteilles de gaz pour pouvoir cuisiner et pour pouvoir payer toujours les procédures qui sont inhérentes à ce genre de pratique.
On enchaîne avec l'agenda. Donc, en plus d'aller amener des matelas aux 40 quais Arloin, vous pouvez mercredi 10 juillet, aller à un rassemblement contre la criminalisation des exilés et de leur soutien à 18h30 place de la Comédie à Lyon 1er, métro Hôtel de Ville. Donc ça fait suite en partie bien sûr à l'histoire de Carola Rackete dont on a parlé en début d'émission, mais d'une manière générale la criminalisation des exilés et de leur soutien, ça fait quand même un moment qu'elle dure et il faut que ça cesse. Et donc rassemblement à 18h30, mercredi 10 juillet, à place de la Comédie à Lyon.
Jeudi, pour l'agenda qui n'est pas très très chargé, mais tant mieux, c'est les vacances. Et là, vous pourrez aller. Pour tout le monde, mais pour pas mal. En attendant, jeudi, le CCO, donc eux qui ne sont pas en vacances, proposent un atelier d'autodéfense numérique. Et c'est quelque chose qui est très très bien. C'est, en fait, ça concerne toutes les personnes, quel que soit votre niveau en informatique, et qui a pour but de revenir sur les bases et de donner aussi des billes aux plus initiés sur comment fonctionne votre matériel, comment se protéger des différentes attaques permanentes, en fait, comment éviter surtout de se faire capturer l'ensemble de ces données, ces cartes bancaires et tout ça par des réflexes extrêmement simples, en fait, hein. On parle pas d'informatique au niveau de choses de geek très très pointues, mais simplement c'est notamment revenir sur les bonnes pratiques que la plupart, hélas, d'entre nous ne nous appliquons que partiellement ou pas du tout. Et voilà. Et donc ça sera le troisième atelier qu'ils ont mis en place. C'est sur deux jours, du 11 et du 12 juillet. Vous pourrez trouver plus d'informations sur l'article de Rébellion et sur le site du CCO. Et vu, parce que moi en tout cas lundi prochain je ne serai pas là, je vous annonce aussi que mardi mardi 16, vu qu'on en parlait tout à l'heure, il y a un apéro de soutien qui va être posé justement en soutien au nouveau squat au 40 quai Arloin, donc dans le 9e, comme on le disait tout
apéro
à l'heure.
Barbecue.
Apéro
s'il
barbecue.
Te plaît.
Donc, n'hésitez pas à ramener vos saucisses et puis merguez, ce que vous voulez, truc vegan, tout est possible. Et l'idée, c'est de partager tous un bon moment convivial et puis de récolter quelques fonds pour aider au lancement de ce nouveau lieu.
Et ben... Il est précisément 19h55 et nous sommes sur la fin de ce canuel. Voilà.
Et on vous dit donc à la semaine prochaine.
Et oui, car il y aura encore une émission la semaine prochaine. Et oui,
ce sera certainement la dernière émission avant l'été,
ou pas.
Avant la rentrée.
Ou pas, on nous verra.
Ça a l'air d'être la dernière émission, mais bon, ça on en discute en réunion. Ça vous intéresse pas, on est d'accord. Ouais. Allez.
Écoutez-nous, on sait jamais. Des fois, il y a des bonnes surprises. On vous souhaite une très 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 bonne soirée et à la semaine prochaine. I'm here. Step away from the window. Go back to sleep. Safe from pain and truth and choice. Ever poison devils. See, they don't give a fuck about you like I do.